13h01 sur les pendules de Radio Plus. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez en ce jeudi 23 mars. C'est toujours votre émission spéciale Plus de Fraternité. Jusqu'à 16h en partenariat avec la Ligue de l'enseignement du Pas-de-Calais. Ce matin, Jean-Philippe et moi-même, nous avons pu parler avec tous nos invités de lutte contre les discriminations, d'éco-citoyenneté et de développement durable. Et cet après-midi, nous évoquerons la responsabilisation des jeunes avec de nombreuses initiatives et quelques invités, sans oublier de parler de démocratie participative et citoyenne. Et jusqu'à 14h, nous vous proposons une série de reportages en rapport avec deux thématiques. La lutte contre les discriminations, toujours, tant c'est un enjeu essentiel, ainsi que la responsabilisation des jeunes. Et le premier de ces reportages, eh bien, vous propose une interview long format de Nassera Zaïli. Nassera Zaïli, vous avez pu l'entendre tout à l'heure, c'est une enseignante ex-militante du MRAP. Et elle a fondé également l'association Action pour l'égalité, grâce à qui elle œuvre sur la création d'un documentaire Parole de discriminés. Pour tout savoir sur Nassera Zaïli et ses projets, on retrouve tout de suite ce reportage réalisé par Jean-Philippe Planck de Radio Plus.
Veux savoir le quotidien d'un maghrébin quand t'as 20 ans, la douce France m'adore tellement qu'elle m'interpelle à chaque tournant.
Cette chanson de Ridan illustre parfaitement le quotidien des Français issus de l'immigration. Ces discriminations liées à l'origine, c'est ce à quoi veut s'attaquer précisément Nassera Zaïli, ancienne militante du MRAP et fondatrice de l'association Action pour l'égalité. Elle travaille depuis quelques années sur un documentaire « Parole de discriminer, la citoyenneté en question ». Nassera Zaïli nous résume tout d'abord son parcours.
Pour ma part, en fait, j'ai été étudiante en troisième cycle de biochimie biotechnologie, en fait, à Lille 1. Dans une unité CNRS. Ensuite, la difficulté pour des gens issus de milieux défavorisés, et en particulier de la diversité, si je puis dire, même si c'est un mot que je n'aime pas beaucoup, a compliqué mon parcours. Donc, de ce fait, j'ai dû, stratégie de contournement, j'imagine, passer un concours pour... pour devenir indépendante et autonome. Oui, donc un peu frustrée certes parce que c'était une passion que de devenir enseignant chercheur, mais bon, ça n'a pas été en tous les cas possible. Mais bon, mais ça m'a donné en tous les cas la force, les outils en tous les cas intellectuels aussi pour parler pour les autres. Et j'ai toujours été militante, toujours soucieuse de l'intérêt collectif et surtout en particulier de la thématique autour de l'égalité des droits. Voilà. Donc j'ai papillonné longtemps sur plusieurs domaines, développement durable, égalité des droits, justice, racisme. Et je me suis un temps impliquée au sein du MRAP durant quelques années. C'est à cette occasion d'ailleurs que j'ai travaillé autour de la lutte contre les discriminations et qui m'amène aujourd'hui en effet à réaliser une œuvre cinématographique pour incarner cette problématique. J'ai rejoint le MRAP autour de cette thématique en particulier. Il y a eu un temps fort, évidemment, qui a été dramatique pour nous tous. C'est les attentats de Charlie Hebdo. C'était un journal, en tous les cas, que je lisais, moi, avec passion quand j'étais étudiante. Donc forcément, j'ai été touchée parce que la liberté d'expression, pour moi, est un outil fondamental. Pour autant, les excès autour de cet événement m'ont, en tous les cas, aussi heurté de la même manière. Et on a été sollicité de façon... excessive par de nombreuses personnes qui avaient été confrontées à des actes racistes inouïs. Sentant en tous les cas que c'était difficile de mener le combat, je me suis donc focalisée sur une création de cellules de lutte contre les discriminations, les cas de racisme en général. Et depuis, j'ai œuvré de façon très particulière et surtout aux côtés des victimes pour justement être conscient des difficultés du parcours, parce que c'est un parcours du combattant, ça fracasse les gens, et surtout tenter de trouver les outils les plus efficaces pour que la lutte soit la plus efficace aussi, et permettre aussi de révéler certes ces difficultés, mais aussi permettre de renouer un dialogue et de construire peut-être la cohésion sociale dont on parle tant et qui sur le terrain ne m'apparaît pas de façon évidente. La liquidation du MRAP a été pour moi aussi un événement important puisqu'elle traduisait aussi la difficulté des mouvements antiracistes d'être efficaces. Je continue en tous les cas le combat, j'ai créé une association, Action pour l'égalité sur le territoire du du Pas-de-Calais en particulier, parce que j'y réside d'une part, et puis je travaille avec des amis qui sont comme moi soucieux de l'intérêt autour de cette lutte, et parce que la difficulté était énorme, inouïe, Je me suis posé la question de savoir quel outil nous pouvions construire en tous les cas pour rendre au moins cette lutte un peu plus efficace. Et je pense en tous les cas que porter la parole et incarner cette problématique au travers d'une œuvre cinématographique était essentiel. Et c'est là-dessus que je travaille depuis un petit moment. Toute mon énergie est vouée à cette œuvre que je porte depuis fort longtemps et qui sera animée de tous les moments de rencontre avec ces victimes, de ces combats inouïs, de cette difficulté, et permettre aussi de révéler l'inefficacité, mais surtout peut-être trouver les moyens avec les institutions et d'autres acteurs de donner à cette lutte les outils nécessaires pour faire entendre le travail de terrain et pour permettre à celui-ci d'être plus pertinent, plus efficient.
Nassera Zaidi revient sur la genèse de ce documentaire « Parole de discriminer, la citoyenneté en question ».
Par mes rencontres et mes différents ateliers avec d'autres partenaires, puisque moi je pars du principe que l'idée du fil conducteur on l'a et qu'il faut construire collectivement, j'ai rencontré la préfète à la cohésion sociale et j'ai aussi rencontré d'autres acteurs, des avocats, et l'idée c'est que tous me disaient que ça ne remontait pas. Ça ne remonte jamais. Il n'y a pas de discrimination puisqu'elle ne remonte pas. C'est le discours que j'entendais globalement partout, même par ceux qui représentaient l'institution. Donc, en clair, il s'agissait d'être entendu. Et pour être entendu, il faut incarner. Et personnellement, je vais faire référence à un autre documentaire que j'ai vu, moi, plus jeune, qui m'a donné à voir, ou qui m'a donné en tous les cas des réponses. Et c'était Mémoire d'immigrés de Yamina Benguigui. Alors, je donne ce documentaire comme exemple parce que concrètement, moi, le jour où j'ai découvert ce documentaire, je suis allée voir les anciens, mes parents, parce qu'il y avait donc, c'était l'humiliation qu'elle évoquait. Elle voulait rendre de la dignité à ces personnages. J'ai trouvé ça particulièrement émouvant. J'étais jeune, j'avais besoin de construire ce lien et de me réapproprier ma propre histoire. Et je me suis dit qu'en fait, elle avait donner à ces gens une parole qui a permis en tous les cas à nous, générations suivantes, d'aller voir nos anciens et de demander pourquoi. Pourquoi tous ces non-dits ? Et ça nous a rapprochés et ça donnait en tous les cas la parole à ces gens-là. Et donc ça leur a redonné une dignité. Celle-là, j'ai envie de la reconstruire maintenant. J'ai l'impression qu'en tous les cas, on n'a pas fini de régler ce genre d'histoire qui est toujours aussi violente et douloureuse. Et que nous, citoyens français, résidents, des fois de deuxième, troisième, quatrième génération, nous sommes encore, finalement, dans le même cheminement que nos anciens. L'humiliation est persistante. Et donc, pour mettre fin, entre guillemets, à cette humiliation, il faut pouvoir l'entendre et donc l'incarner. Et ce documentaire, en tous les cas, c'est, pour moi, j'y tiens, c'est qu'on va redonner de la dignité à ces gens-là, leur redonner une place dans notre société qu'on veut plus juste et solidaire.
Alors, justement, ce documentaire, vous travaillez dessus depuis combien de temps ?
En fait, l'idée, elle a émergé assez rapidement après les premiers événements et après la création de cette fameuse cellule régionale. Et je me suis dit que, de toute façon, la seule alternative, c'était en effet de donner cette parole-là, de l'ouvrir, d'ouvrir les yeux, de donner cette conscience-là à tous. Et parce que j'ai travaillé aussi avec différents partenaires, j'ai travaillé aussi au travers d'un festival, j'ai rencontré des réalisateurs, j'ai proposé mon projet, j'ai proposé qu'on incarne en tous les cas cette problématique que je travaille depuis fort longtemps. Voilà, un réalisateur m'a proposé en effet de travailler ensemble sur ce film documentaire qui est écrit. Disons que le matériel vivant, je l'ai. C'est évident, puisque 2 ans de travail, de dossiers lourds vont me permettre d'incarner en fait tout ce combat, mais aussi toutes les activités parallèles, les partenariats que j'ai pu construire, les activités avec les juristes, les difficultés aussi à travailler avec les juristes, parce que la discrimination n'est pas si simple. Et souvent d'ailleurs, le retour des juristes me disent « mais le problème, c'est la preuve ». Le problème est la preuve, et donc la preuve, eh ben, va falloir l'amener, cette preuve, eh ben, ça peut être aussi un documentaire que je tiens en tous les cas à utiliser après pour créer des ciné-débats, se réapproprier cette parole-là et montrer en fait que ce combat est possible. Voilà.
Vous en êtes où dans ce travail de documentaire ?
Alors on a le synopsis est écrit, la note d'intention est écrite. La difficulté, mais c'est toujours le nerf de la guerre, c'est le financement. Donc on a lancé une plateforme contributive, donc ce GoFundMe, permettant de financer une partie de ce film. Et il va falloir aussi encore aller au combat pour trouver des subventions, pour être soutenu. Mais toutefois, je veux garder la main libre sur mon documentaire. Je veux que la ligne éditoriale, si je puis me permettre, soit dictée par mon parcours et le parcours de ceux que j'accompagne. On fait appel en tous les cas à tous ceux qui se retrouvent dans cette cause et qui veulent la mener avec moi et donc devenir aussi acteurs de ce processus de construction positive, de nous rejoindre sur la plateforme GoFundMe, donc parole de discriminer la citoyenneté en question. Et par là même, je demande aussi aux institutions de m'accompagner sur ce projet qui, pour moi, a du sens. Voilà.
Une plateforme que l'on peut justement utiliser jusqu'à quelle date on peut vous soutenir financièrement ?
Eh bien, nous, l'idée du projet, c'était de constituer ce film courant mai. Donc, on a encore deux bons mois, en tous les cas, pour faire en sorte que chacun puisse nous accompagner sur ce projet qu'on veut rendre utile à tous.
Combien de témoignages, à peu près, dans ce documentaire, vous comptez
Alors, il pourrait y en avoir de nombreux témoignages, mais je pense qu'on va essayer de se focaliser avec l'idée d'incarner cette problématique au travers de plusieurs thématiques. Donc, la thématique de l'école, de la santé ou du logement, et le travail. Donc voilà, ce serait plutôt des domaines sur lesquels nous aimerions avoir un éclairage. Voilà. Et donc, chacun viendra alimenter chaque domaine avec les différents témoignages qu'on a pu rencontrer et qui pourront aussi, justement, peut-être... permettre peut-être à ceux qui vont nous faire des propositions là tout à fait prochainement de peut-être mettre en avant en tous les cas la lutte contre la discrimination qui pourra servir la cause et rendre le monde un peu plus fraternel si je puis dire.
On entend assez peu les victimes de discrimination liées à l'origine. Nassera Zaidi nous explique pourquoi.
Moi, je pense qu'il y a deux problèmes. Le premier problème, je le disais, c'est la fameuse dénégation. C'est quand même difficile de s'avouer une difficulté qui est monstrueuse et qui date, parce qu'il y a une histoire particulière aussi qui peut justifier cette problématique. Elle est liée aussi à notre histoire personnelle. Il ne faut pas oublier que l'immigration, c'est quand même il y a un flux d'immigration issue des pays colonisés, c'est encore compliqué, on a une histoire encore compliquée, qu'on a encore du mal à regarder en face, et de façon apaisée, puisque on n'est pas non plus dupes, on sait pertinemment qu'elle a été douloureuse, et pour autant, on peut reconstruire, mais pour reconstruire, il faut une vérité, justement, qui soit digne de construction positive. La vérité n'est pas nécessairement que violente, elle peut aussi aider à construire du mieux vivre. Et puis, de l'autre côté, il y a aussi la plupart des victimes qui n'ont pas encore compris que l'essence même du combat, c'est de l'incarner soi-même. Et c'est aussi là-dessus que je travaille. On a été représentés souvent par d'autres que j'ai trouvé merveilleux dans tous les combats que j'ai pu mener. De toute façon, j'ai été accompagnée. Mais il faut aussi s'inscrire dans ce propre processus. Donc, affronter ce combat en étant nous-mêmes acteurs. Voilà. La problématique est là. Et donc, le film donnera ou réparera chez certains l'idée que de retrouver la dignité, c'est aussi retrouver le chemin du combat. Et derrière le mot combat, pour moi, il ne s'agit pas de batailler de façon violente, mais juste de construire positivement. Voilà. Se reconstruire une identité positive. On n'arrête pas de parler d'identité. Prenons l'identité positive. L'identité positive, c'est juste être nous, citoyens français, égaux, en dignité et en droit.
Pour terminer, Nassera Zaidi en dit un peu plus sur la date de sortie de son documentaire « Parole de discriminer, la citoyenneté en question ».
Pour fin juin, nous aimerions qu'il soit disponible. Donc, la problématique du financement, là, il va falloir accélérer en fait le processus pour qu'on puisse en effet œuvrer de façon efficace. Idéalement, nous aurions aimé qu'il soit produit pour les élections, mais ça va être compliqué. Mais en tous les cas, un autre teaser viendra alimenter. Et interpeller les élus pour qu'on puisse à un moment donné ouvrir à nouveau le débat là-dessus et construire quelque chose de plus positif.
Vous espérez une diffusion en salle ?
Ah oui, complètement, c'est l'objet, oui. Oui, c'est l'objet. Donc ça, on va travailler là-dessus. Je vois aussi justement... il y en a plein de bénévoles qui sont prêts à nous aider et c'est là-dessus qu'on va travailler, que je continue à travailler. Ça me demande une énergie folle et un temps fou, c'est chronophage, mais bon, je tiens.
Plus d'infos sur ce documentaire de Nassera Zaidi et de Yuven Amar Khodja sur le site www.gofundme.com. Un sujet de Jean-Philippe Planck de Radio Plus.
Cette émission est proposée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du nord de la France, une coopération qui a reçu le soutien de la région Hauts-de-France.
C'était Parole de discriminé. On revient après un peu de musique sur le 104.3.
Hey tonton, est-ce que t'as regardé dehors? Sur l'avenir de nos enfants, il pleut de plus en plus fort. Quand je pense à eux, pourtant, j'aimerais chanter un autre thème. Mais je suis plus trop serein. Je fais pas confiance au système. Ce système fait des enfants, mais il les laisse sur le chemin. Et il oublie que s'il existe, c'est pour gérer des êtres humains. On avance tous tête baissée, sans se soucier du plan final. Ce système entasse des gosses, et il les regarde crever la dalle. Tonton, on est du bon côté, mais ce qu'on voit, on ne peut le nier. J'ai grandi au milieu de ceux que le système a oubliés. On vit sur le même sol, mais les fins de mois n'ont pas le même parfum. Et chaque année monte un peu plus la rumeur des crèves la faim. Le système a décidé qu'il n'y avait pas de place pour tout le monde. Tonton, t'as entendu les cris dehors? C'est bien notre futur qui gronde. Le système s'est retourné contre l'homme perdu dans ses ambitions. L'égalité est en travaux, et il y a beaucoup trop de déviations. Hé, hey, tonton, on va faire comment? Bah dis-moi tonton, on va faire comment? Est-ce que les hommes ont voulu ça? Est-ce qu'ils maîtrisent leur rôle? Ou est-ce que la machine s'est emballée et qu'on a perdu le contrôle? Est-ce qu'il y a encore quelqu'un quelque part qui décide de quelque chose? Ou est-ce qu'on est tous pieds et poings liés en attendant que tout explose? Difficile de me rassurer tonton, je te rappelle au passage que l'homme descend bel et bien du singe, pas du sage. Et c'est bien l'homme qui regarde mourir la moitié de ses frères, qui arrache les derniers arbres et qui pourrit l'atmosphère. Il y a de plus en plus de cases sombres et de pièges sur l'échiquier. L'avenir n'a plus beaucoup de sens dans ce monde de banquiers. C'est les marchés qui nous gouvernent, mais tous ces chiffres sont irréels. On est dirigé par des graphiques, c'est de la branlette à grande échelle. Hé tonton, on va faire comment, tu peux me dire? Comme il faut que tout soit rentable, on privatisera l'air qu'on respire. C'est une route sans issue, c'est ce qu'aujourd'hui tout nous démontre. On va tout droit vers la défaite dans cette course contre la honte. Hé hey, tonton, on va faire comment? Dis-moi tonton, on va faire comment? Et le dessert, tout là-haut dans leur dîner. Est-ce que les grands de ce monde ont entendu le cri des indignés? Dans le viseur de la souffrance, il y a de plus en plus de cibles. Pour l'avenir, pour les enfants, essayons de ne pas rester insensibles.
Ma petite gueule d'amour, mon polo, mon ami châtaigne. On va rien lâcher, on va aimer. Regarder derrière pour rien oublier. Ni les yeux bleus, ni les regards noirs. On perdra rien, peut-être bien un peu, mais ce qu'il y a devant, c'est si grand. Ma petite gueule d'amour, mon polo, mon ami châtaigne, t'as bien le temps d'avoir le chagrin éternel. S'ils veulent pas le reconstruire, le nouveau monde, on se mettra au boulot. Faudra de l'utopie et du courage. Faudra remettre les pendules à l'heure, leur dire qu'on n'a pas le même tic-tac que nous. Il est plutôt du côté du cœur. Fini le compte à rebours du vide, du rien dedans. Ma gueule d'amour, mon petit pote d'azur, il est des jours où je peux rien faire pour toi. Les conneries, je les ai faites, et c'est un chagrin qui s'efface pas. Faut pas manquer beaucoup pour plus être le héros, faut pas beaucoup. Je te jure, petit frère, faut freiner à temps. Va falloir chanter l'amour encore plus fort. Y aura des révolutions qu'on voudra pas et d'autres qui prennent leur temps. Pourtant, c'est urgent. Où est la banque? Faut que je mette une bombe désodorante. Une bombe désodorante pour les mauvaises odeurs du fric qui dévore. Pas de place pour les gentils, les paumés de la vie. Chez ces gens-là, on n'aime pas, on compte. Ma petite gueule d'amour, mon polo, mon ami châtaigne. châtaigne. Petit frère, putain, on va le reconstruire ce monde. Pour ça, tonton, faut lui tendre la main. Tonton, il peut rien faire si t'y crois pas. Alors faudra se regarder, se découvrir, jamais se quitter. On va rien lâcher, on va rester groupés. Il y a les frères, les cousines, les cousins, il y a les petits, la voisine, il y a les gamins perdus qui deviennent des caïds de rien, des allumés qui s'enflamment pour faire les malins. Il y a la mamie qui peut pas les aider, qui a rien appris dans les livres, mais qui sait toute la vie. À force de plus croire en rien, c'est la vie qui désespère. Faut aimer pour être aimé, faut donner pour recevoir. Viens vers la lumière, petit frère, ta vie c'est comme du gruyère. Mais personne te le dit, t'as une belle âme. Ma petite gueule d'amour, mon polo, mon ami châtaigne, on va rien lâcher. On va aimer, regarder derrière.
Deuxième reportage à présent qui va concerner un autre type de discrimination, l'égalité ou plutôt l'inégalité homme-femme. Christian Lazaoui de Pastel FM a assisté à un déjeuner débat de l'Association pour une économie solidaire, l'APES, autour de cette question de l'égalité homme-femme au travail.
L'APES, Association pour une économie solidaire, est un réseau d'acteurs de l'économie solidaire qui se reconnaissent et se rassemblent autour des valeurs et des pratiques solidaires. Je suis allé à un déjeuner débat organisé sur l'égalité homme-femme dans le monde du travail, où j'ai pu interviewer les organisateurs.
Bonjour, je m'appelle Olivia Maillefer et je travaille à l'APES, acteur pour une économie solidaire.
Est-ce que vous pouvez nous parler de l'atelier de ce matin ?
Oui, donc c'était une rencontre, un petit déjeuner qui touche au thème de l'égalité entre les femmes et les hommes dans les structures d'économie sociale et solidaire. L'idée, c'est de se questionner un petit peu sur les pratiques qu'on met en place au sein de nos structures et de voir si effectivement nos pratiques et nos valeurs sont en cohérence, en tout cas sur l'égalité entre les femmes et les hommes.
Comment est-ce que vous avez organisé cette matinée ?
Alors ça s'inscrit dans un projet un petit peu plus global que l'on mène avec Galilée sur un projet régional d'égalité femmes-hommes dans les structures d'économie sociale et solidaire. Il y a eu une enquête auparavant et en fait suite à cette enquête on s'est rendu compte qu'il y avait un petit peu de difficulté pour certaines structures à vraiment être en accord sur ces éléments-là et on voulait essayer de mettre des petits temps en place pour leur apporter tout ce qui est touche à la réglementation, la légalité, etc. Et puis des petites idées de pratiques ou de choses qu'ils peuvent mettre en place en interne, à la fois pour favoriser la place des femmes dans les structures, dans les gouvernances des structures, et également dans tout ce qui touche à l'embauche, les formations, etc.
Et par rapport à ces sujets, donc vous partez de certains diagnostics ?
Oui, il y a eu une enquête qui a été réalisée l'année dernière auprès de structures d'économie sociale et solidaire du Nord-Pas-de-Calais. Une enquête et des entretiens et qui ont permis d'affiner un petit peu les modes de fonctionnement et ce qui existait en fait dans la réalité profonde des structures.
Et selon vous, quels sont les principaux freins ?
Ah, les freins. Alors la première chose, je pense, c'est que les employeurs ne se rendent pas forcément compte qu'ils ont des actes qui peuvent être discriminatoires ou qui peuvent ne pas favoriser l'égalité entre les hommes et les femmes. Et la première marche qu'il faut avoir, c'est de se poser la question et de se dire, est-ce que vraiment ce que je mets en place a un impact ou pas ? Est-ce que je suis juste dans ce que je fais ? Et est-ce que vraiment les femmes qui travaillent dans ma structure se sentent aussi bien que les hommes ? Est-ce que le relationnel et leur manière de travailler entre eux est juste et équitable ? Est-ce que ma vision, ma façon de les faire monter en compétences est égalitaire entre les hommes et les femmes, etc., etc.
Et au-delà de ce petit déjeuner, donc je pense que vous proposez aussi des pistes.
Oui, tout à fait. Alors, pour le moment, c'est vraiment les prémices. Le petit déjeuner est le premier temps vers d'autres choses, on espère. Il y a la sortie d'un livret donc qui a été fait par Galilée, qui permet de donner quelques petites pistes d'action. Et ce qu'on aimerait imaginer avec le comité de pilotage qui travaille dessus, c'est pourquoi pas des formations, des accompagnements, des réflexions. Donc voilà, ça, c'est un premier temps. Il faut qu'on affine par la suite ce qui pourrait être mis en place sur la région. Mais probablement, sur 2017, il va y avoir plusieurs petites choses.
Est-ce que vous avez déjà rencontré des associations ou des entreprises qui, je ne vais pas dire qui nient le problème, mais qui minimisent un peu la problématique?
Oui, oui, en fait, au moment de l'enquête, ça a été assez marquant, c'est qu'on a rencontré déjà étonnamment beaucoup d'hommes dirigeants, donc voilà, et qui nous disaient non, moi, tout ce que je mets en place, je suis juste, etc. Et quand on creusait vraiment et dans le détail et dans la posture de la personne, on se rendait compte qu'il y avait une vraie posture paternaliste, que vis-à-vis des femmes, il n'y avait pas le même regard que vis-à-vis des hommes, ou que ce soit dans ce qui pouvait être mis en place au niveau de l'accès, au niveau des temps de travail, au niveau de pas mal de choses, et que déjà, la personne que nous avions en face de nous n'avait pas une vision tout à fait égalitaire, équitable, bien qu'ils disent le contraire. Donc c'est arrivé, effectivement.
Si jamais on veut un peu plus d'informations sur ce sujet, où est-ce qu'on peut trouver de l'information ?
Sur le site de l'APES, donc Acteurs pour une économie solidaire, vous avez pas mal de choses sur les rencontres que nous organisons. Et puis sur le site de Galilée, G-A-L-I-L-E-E, vous avez les références à l'enquête, au petit livret, etc. Et puis des renvois vers d'autres structures qui font des choses. Vous avez le CORIF, vous avez la préfecture. Voilà, il y a pas mal de structures qui se lancent depuis longtemps, hein, d'ailleurs, dans cette démarche, qui proposent des outils, des pratiques, des accompagnements. Il ne faut pas hésiter à creuser auprès de différentes structures.
Caroline Plénage, directrice régionale des droits des femmes et de l'égalité.
Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous faites ce matin ?
Ce matin, j'interviens auprès des acteurs de l'économie sociale et solidaire pour les informer de ce qu'est la législation sur les droits des femmes et l'égalité professionnelle.
Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur votre intervention ?
Mon intervention a porté sur l'histoire de l'égalité en France depuis 1800 jusqu'à nos jours et notamment sur la mise en œuvre du plan interministériel pour l'égalité professionnelle porté par la ministre Laurence Rossignol.
Et vous nous avez fait souvent référence ce matin justement à la ministre, au plan qui avait été mis en place. Et est-ce que vous pouvez nous parler un peu de vos missions ?
Alors, mes missions sont justement de porter la politique du gouvernement mise en place sur l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, mais aussi de développer toutes les actions qui vont permettre de lutter pour les droits des femmes et notamment contre les violences faites aux femmes.
En arrivant, je pense que vous avez certainement eu un diagnostic qui a été fait ou des études qui ont été menées sur l'ensemble de la région.
Oui, nous travaillons beaucoup avec l'INSEE. Je travaille beaucoup avec l'INSEE et nous avons quelques chiffres. L'INSEE qui avait d'ailleurs produit depuis 4 années maintenant un diagnostic territorial de l'égalité professionnelle sur le Nord-Pas-de-Calais, bientôt sur les Hauts-de-France, de manière à savoir justement comment se situent et où se situent les inégalités entre les hommes et les femmes sur notre région.
Donc, votre mission doit être quand même assez large parce que vous devez intervenir sur l'ensemble des acteurs.
Alors j'interviens auprès des acteurs et des actrices du terrain sur l'ensemble des départements. Je suis accompagnée par des déléguées départementales qui interviennent elles aussi sur les départements. L'idée c'est effectivement de pouvoir travailler de manière transversale, c'est-à-dire qu'on est à la fois là aujourd'hui sur le champ de l'égalité professionnelle en entreprise ou dans les associations. On intervient et j'interviens aussi sur la question des violences, donc auprès des dans le cadre de formation notamment, auprès des forces de police et de gendarmerie, ou bien aussi parfois dans des écoles de communication sur comment est-ce qu'on communique de manière non sexiste.
Mais c'est vraiment sur tous les leviers, ça peut être sur les entreprises, ce que vous disiez à l'instant, tout ce qui est l'économie de notre société, ça peut être l'éducation, la vie associative, mais ça fait un énorme travail, un énorme champ.
Oui, mais justement, c'est là où c'est important de s'en rendre compte. Je vous remercie de poser cette question. C'est vrai que le champ est énorme. C'est ça qui rend la tâche passionnante. On a plusieurs leviers. Ce qu'on disait aussi ce matin, c'est justement que les choses ne vont pas de soi et ne se font pas d'un seul bloc. C'est-à-dire qu'elles se font sur plusieurs secteurs en même temps, de manière à pouvoir faire évoluer les mentalités, faire avancer les choses pour que chacun et chacune puisse avoir accès aux mêmes droits.
Mais les représentations sont dans notre pays quand même assez difficiles à bouger.
Oui, alors dans notre pays comme dans d'autres, malheureusement, c'est vrai qu'on part avec une culture et une habitude de fonctionnement liée beaucoup à des stéréotypes, à des clichés qui font qu'aujourd'hui encore en France, on pense que des métiers sont réservés à une certaine catégorie de la population. Ça fait partie des discriminations. Malheureusement, on a encore aujourd'hui beaucoup et de nombreux critères de discrimination contre lesquels il faut essayer d'agir. C'était le but, effectivement, de l'intervention de ce matin.
Et un des acteurs essentiels, je pense, ça doit être aussi l'éducation nationale.
Bien sûr. Alors l'éducation nationale, on travaille avec eux. Il y a tout un travail que mène le rectorat auprès des professeurs, auprès des enseignants, justement des formations à la prise en compte de l'égalité, au respect des filles et des garçons, au respect mutuel des filles et des garçons. Là aussi, le champ est vaste et la tâche est rude, mais je pense que les choses avancent néanmoins.
Jean-Paul Moutier, directeur de l'association Galilée à Saint-Omer.
Est-ce que vous pouvez nous parler de votre présence ce matin à Lille ?
Alors, ce matin, je suis venu participer à un petit déjeuner sur le thème de l'égalité professionnelle entre femmes et hommes, organisé par l'APES, qui est un réseau qui regroupe des employeurs et structures de l'économie sociale et solidaire.
Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre intervention ?
Alors, l'intervention de Galilée fait suite à une étude que nous avons menée depuis 2 ans auprès d'employeurs de l'économie sociale et solidaire des départements du Nord et du Pas-de-Calais, qui visait à mesurer à quel point les employeurs de l'ESS sont sensibles à cette thématique, aux problématiques de l'égalité professionnelle entre hommes et femmes, comment ils s'approprient ces questions actuellement, est-ce qu'il y a des actions qui sont mises en place par les entreprises, par les employeurs, pour favoriser cette égalité professionnelle.
De par votre expérience, est-ce que vous pouvez nous parler des difficultés qu'on rencontre le plus souvent ?
Au niveau des entreprises de l'économie sociale et solidaire, on s'aperçoit déjà que statistiquement, nous ne sommes pas forcément. Enfin, les emplois féminins sont très présents dans l'économie sociale et solidaire, hein, près de 65% des emplois dans le département du Pas-de-Calais et du Nord. Mais on trouve les mêmes inégalités salariales ou en termes de perspectives professionnelles que dans les entreprises, je veux dire, du secteur marchand dit classique. Donc, on a notamment interrogé les employeurs de l'ESS qui, paradoxalement, pensent bien faire en disant nous sommes de l'économie sociale et solidaire, donc il n'y a pas de discrimination chez nous, tout au moins elle n'est pas volontaire. Et les employeurs ne perçoivent pas en général les leviers sur lesquels ils peuvent agir pour améliorer effectivement la situation des femmes et des hommes dans leurs entreprises.
Donc ce que vous faites, c'est aussi un travail d'accompagnement.
Alors c'est un travail, ici nous venons d'éditer un petit document qui s'intitule « Égalité professionnelle entre femmes et hommes, agissons dans l'économie sociale et solidaire » qui peut être remis gratuitement, c'est un petit document d'une 20aine de pages, très lisible, très accessible je pense, qui peut être remis à tout employeur de l'ESS, qui donne une introduction à en quoi les enjeux de l'ESS sont convergents avec ceux de l'égalité professionnelle, et puis qui donne un certain nombre de pistes très simples pour l'action, qui ne sont pas coûteuses, qui sont souvent de l'ordre de la posture, de la réflexion à mettre en place au niveau de l'entreprise pour favoriser une meilleure égalité professionnelle. Donc il y a déjà ce petit document pédagogique qu'on met à disposition des employeurs, et puis nous avons des possibilités d'accompagnement individuel, c'est-à-dire de réaliser des petits diagnostics en entreprise pour voir quelle est la situation actuelle, mettre en place les indicateurs qui permettent effectivement de mesurer la situation réelle des femmes et des hommes au sein de l'entreprise et éventuellement accompagner l'employeur dans des actions qui favoriseront une approche intégrée de l'égalité femmes-hommes, ce qui signifie que dans ce qu'on appelle l'approche intégrée, c'est adapter les outils et méthodes de l'entreprise de façon à permettre aux hommes et aux femmes d'accéder aux mêmes droits, d'accéder à une égalité qui soit réelle au sein de l'entreprise.
Si vous êtes intéressé par les activités de l'association pour une économie solidaire, vous pouvez aller sur leur site apes-hdf.org. Sujet réalisé par Christian Lazaoui pour Radio Pastel.
Cette émission est proposée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du nord de la France. Une coopération qui a reçu le soutien de la région Hauts-de-France. Reportage de Christian Lazaoui de Pastel FM. Dans un instant, on parle emploi des jeunes sur Radio Plus.
C'est toi qui m'as aidé à larguer les amarres. Pour aller n'importe où, pour aller jusqu'au bout des chemins de fortune. Pour cueillir en rêvant une rose des vents sur un rayon de lune. Ma liberté devant tes volontés, mon âme était soumise. Ma liberté, je t'avais tout donné, ma dernière chemise. Et combien j'ai souffert pour pouvoir satisfaire tes moindres exigences. J'ai changé de pays, j'ai perdu mes amis pour gagner ta confiance. Ma liberté, tu as su désarmer toutes mes habitudes. Ma liberté, toi qui m'as fait aimer même la solitude. Toi qui m'as fait sourire quand je voyais finir une belle aventure. Toi qui m'as protégé quand j'allais me cacher pour soigner mes blessures. Ma liberté, pourtant je t'ai quitté une nuit de décembre. J'ai déserté les chemins écartés que nous suivions ensemble. Lorsque sans me méfier, les pieds et poings liés, je me suis laissé faire. Et je t'ai trahi pour une prison d'amour et sa belle geôlière. Et je t'ai trahi pour une prison d'amour et sa belle geôlière.
L'association Passeport Format est basée à Béthune. Elle œuvre pour mettre les jeunes sur le chemin de l'emploi en leur proposant un suivi personnalisé, en leur inculquant quelques bases de savoir-être, mais aussi en les accompagnant dans les démarches administratives. Découvrez-en plus sur cette association au travers de ce reportage que j'ai réalisé. Passeport Format est une association basée à Béthune. Elle est en charge de l'insertion, de l'accompagnement et de la montée en compétences socio-professionnelles, particulièrement chez les jeunes. Thierry Pruvot, référent PLI, et Olivier Voilard, chargé de relations avec les entreprises, nous parlent de l'association et de ses méthodes d'accompagnement.
C'est une association qui a été créée en 1988 à l'initiative de la mission locale, sur un type associatif loi 1901. Spécialisé dans l'orientation, l'insertion professionnelle sur l'accompagnement d'un public jeune et adulte.
On s'occupe en effet et on accompagne tous les publics. En l'occurrence pour Thierry, au niveau du PLI, sont les publics à partir de 26 ans jusque l'âge, comme on disait tout à l'heure, de la retraite. En ce qui me concerne, moi je suis donc dans un autre dispositif, en l'occurrence par rapport à l'IEJ, l'insertion, l'initiative emploi jeune. Dans ce cadre-là, il faut bien savoir que ce sont des dispositifs qui sont mis en place à disposition des jeunes et référencés, financés par l'Europe. On parle souvent en mauvaise gestion de l'Europe. Là, c'est grâce à, en l'occurrence, le FSE, le Fonds Social Européen, décliné au niveau régional, au niveau également de l'État, qui met en place des dispositifs pour faire en sorte que nos jeunes puissent être accompagnés. Je parle souvent de nos jeunes qui sont souvent pour lesquels il n'y a pas de solution. Et à part là, dans le cas de l'IEJI, nous sommes là pour vraiment accompagner les jeunes publics, en l'occurrence à part de 16 ans, jusque 25 ans, pour des jeunes qui veulent bouger, qui veulent avancer, qui veulent progresser. En ce qui nous concerne, nous parlons bien d'accompagnement et donc officiellement d'invitation. Nos jeunes sont au niveau de Béthune, vu que comme vous le savez tout à l'heure, on l'a mis en place, nous sommes basés au niveau de Béthune, mais nous sommes également au plus près des jeunes. Nous sommes non seulement à Béthune, mais également dans toutes les villes environnantes pour faire en sorte que les jeunes puissent être accompagnés au plus proche de leur domicile. Le but pour nous, c'est vraiment de faire en sorte que nos jeunes puissent avancer socio-professionnellement. C'est-à-dire que, bien évidemment, la finalité commune pour ce jeune, c'est bien sûr une montée en compétences, progresser, avancer et s'insérer. Tout à l'heure, on parlait avec les adultes de réinsertion. En ce qui concerne, c'est bien plus de l'insertion parce que pour les jeunes, il n'y a souvent pas eu de poste, il n'y a pas eu d'expérience, il n'y a pas eu de diplôme. Et donc, les jeunes sont un peu paumés, pour reprendre le jargon d'aujourd'hui. Donc, le but premier, je pense, dans un premier temps avec le jeune, c'est de faire en sorte que le jeune se refasse confiance lui-même. À part là, on peut établir ensemble un projet de vie. Un projet de vie pour monter en compétences. On passe par différentes étapes. Bien évidemment, en fait, la finalité reste l'objectif premier, c'est le travail. Mais on a bien conscience que, avant tout, si le jeune n'a pas à la base les différentes choses mises en place, comme les besoins élémentaires, comme s'alimenter, comme un toit et autres, on travaille tous ces dispositifs pour arriver à une situation globale. Les différents paliers qui sont mis en place, ces piliers qui sont mis en place par l'insertion des jeunes, c'est bien sûr les techniques de recherche d'emploi. Il est clair qu'aujourd'hui, le jeune qui veut se présenter, s'il n'a pas à jour un bon CV, une bonne adresse mail correcte, un bon répondeur, un bon message vocal, mais également tout ce qui est les techniques en termes de posture, il est clair qu'à part de là, il n'arrivera pas à pouvoir s'insérer. Nous, on va travailler vraiment dans la globalité de la personne, la personnalité, pour la construire, pour faire en sorte qu'elle puisse se présenter honorablement et officiellement vis-à-vis d'un futur éventuel employeur.
La mission de Passeport Format, donner toutes les clés pour élaborer le projet professionnel, ce qui constitue un vrai travail d'équipe. Olivier Wallard.
Le but pour nous, il y a 5 piliers comme j'ai dit tout à l'heure, ce sont donc les techniques de recherche d'emploi, la stratégie de recherche d'emploi, comment le jeune s'y prend pour avancer, l'adaptation au niveau du poste. Un exemple concret, si un jeune nous dit bah tiens, j'ai envie d'être éventuellement préparateur de commandes, s'il n'a pas les CACES, on va pouvoir par exemple lui financer les CACES en question, parce que on est obligé de passer par cette étape intermédiaire, et surtout l'élaboration d'un projet professionnel. Bien évidemment, au niveau de passeport formel, nous ne travaillons pas seuls, on a à peu près une vingtaine de collaborateurs, et chacun, je dirais, a ses spécificités. En ce qui me concerne, je suis plus sur la partie entreprise, mais bien évidemment, je suis là pour être facilitateur, pour faire en sorte que le jeune puisse être placé en entreprise. Mais moi, à mon niveau, je fais de la promotion de profil, la promotion de jeunes auprès d'une entreprise. Il est clair que si je ne connais pas le jeune, je ne peux pas plus facilement moi-même en parler. Donc à ce niveau-là, on est vraiment un travail d'équipe entre les psychologues du travail, les autres collègues également, pour faire en sorte que le jeune puisse vraiment honorablement, officiellement bouger et avoir une sortie positive vers l'emploi et donc finalité globale.
L'accompagnement des jeunes est un vaste chantier qui impacte un grand nombre de personnes, comme nous l'explique Olivier Wallard.
Pour l'année, à peu près à 200-250 jeunes accompagnés. En sachant que globalement, à partir du moment où il y a une prise de contact avec le jeune, on se dit que sous 4 mois, c'est le taux moyen de sortie, si au bout de 4 mois, il n'y a pas une sortie, une montée en compétences, c'est que entre nous, ça ne peut pas bien se passer. Dans ce cas, on fait ce qu'on appelle un regard croisé, on passe la personne à quelqu'un d'autre. Mais on se dit que la moyenne pour faire en sorte que la personne puisse avancer, c'est bien à peu près 4 mois d'accompagnement. En sachant bien, j'insiste bien sur ce dispositif, c'est bien un accompagnement personnalisé, du coût humain, dû à la carte. C'est-à-dire que la personne vient chez nous toutes les semaines. Ça part bien d'une bonne volontariat de la personne de vouloir avancer. Le but, c'est vraiment qu'on fasse en sorte que la personne nous voit régulièrement. Il y a une récurrence à ce niveau-là, en termes d'horaire, en termes de posture, pour pouvoir se faire confiance, se connaître, et faire en sorte qu'en finalité, encore une fois, il y ait bien sûr une sortie vers et ou un emploi et ou un apprentissage. Comme vous le savez, dans le cas de l'IEJ, ce sont des jeunes, ce qu'on appelle des NEET, c'est-à-dire pas en emploi, pas en éducation et pas au travail, donc ce sont ce qu'on appelle des NEET.
On va préciser l'acronyme pour les auditeurs,
s'il vous plaît. Pas en emploi, pas en formation et pas en éducation. Ils sont, entre guillemets, comme je dis toujours, à rien à l'heure où on se parle. Ce sont des jeunes qui sont décrocheurs scolaires, et qui viennent chez nous parce que ils se disent tiens, j'en suis à rien, et ils viennent en se disant j'ai envie d'avancer, j'ai envie de bouger, il est temps que je prenne mon destin en main. Et donc dans ce cadre-là, nous-mêmes, nous allons être des facilitateurs à leur côté pour avancer.
La principale difficulté des jeunes en recherche d'emploi est de dépasser les freins qui les affectent. Parmi les principaux freins, La posture, l'attitude renvoyée, comme nous l'explique Olivier Wallard, chargé de relations entreprises au sein de Passeport Format.
Un message vocal sur le répondeur, il faut qu'il soit correct. Si j'appelle un jeune pour lui dire qu'il y a éventuellement une mission ou un apprentissage ou autre chose et que ça ne répond pas, ou que le message sur le répondeur est complètement folklorique, je lui fais comprendre que c'est pas comme ça qu'il va être crédible vis-à-vis d'une entreprise éventuelle. Deuxième chose, c'est l'adresse mail. J'insiste lourdement là-dessus. Une adresse mail doit refléter la personne. Votre adresse mail normale pour le boulot qu'on va mettre dans votre CV, c'est une adresse mail qui puisse vous identifier. Je pense à tel jeune, parce que j'ai une offre pour lui, il faut que moi, dans mon ordi, je puisse taper son prénom et le retrouver automatiquement. Si j'ai n'importe quoi, le jeune s'appelle Olivier Dupont et que son mail c'est Tio Grand Machin, je pourrais jamais le retrouver dans mes adresses mail. Il faut les bases, les fondations pour construire quelque chose, construire un bon parcours. Et la posture, c'est en effet ça, c'est l'attitude, c'est la vie ensemble, c'est un mail, c'est un CV correct pour pouvoir être armé.
Le permis, on imagine aussi, c'est peut-être l'un des freins principaux également.
Bien évidemment. Pour revenir un petit peu l'expression tout à l'heure, c'est qu'on va modeler le jeune pour qu'il soit employable. C'est un peu l'objectif pour lui. Alors le frein à la mobilité, bien évidemment, est un grand frein. On a bien conscience que le permis coûte cher. On a bien conscience que tout le monde n'a pas les moyens de s'acheter un permis qui coûte maintenant plus ou moins dans l'ordre de 1 500 €. Par contre, j'hésite pas à le dire, il y a quand même des dispositifs qui sont mis en place pour faire en sorte que le jeune puisse se bouger. La région aide également les jeunes. On parle des aides à la mobilité. Par exemple, pour ne pas le nommer également, il y a des aides autres par la région comme le passe-emploi, comme le passe-formation. Mais pour revenir à votre phrase initiale, le permis, bien sûr, on parle des permis coup de pouce, actuellement grâce et mis en place par le conseil départemental, et qui sont revotés pour 2017. Alors attention, c'est pas non plus de l'open bar. Ce que je veux dire par là, c'est que les vannes ne sont pas ouvertes pour payer un permis de conduire et uniquement pour payer un permis de conduire. C'est-à-dire que ce permis de conduire qui peut être validé et proposé et financé en partie par le conseil départemental est bien une initiative pour faire en sorte que ça s'inscrive dans une logique globale associée à un poste.
Alors que le marché de l'emploi apparaît morose, il semblerait pourtant que de nombreuses offres d'emploi soient à pourvoir sur le secteur du béthunois. Olivier Wallard.
Il est quand même de bon augure de rappeler qu'à l'heure d'aujourd'hui, le jeune qui veut progresser doit passer, si tant est qu'il n'ait pas de diplôme, par une formation. À l'heure actuelle, nous avons, entre guillemets, pour schématiser, tout ce que nous voulons pour que le jeune puisse entrer en formation au niveau local, au niveau régional. Le jeune d'aujourd'hui qui veut travailler, qui veut s'insérer, qui veut progresser, bien évidemment, on passera par ces dispositifs pour, encore une fois, la finalité vers l'entreprise. Les entreprises, aujourd'hui, recrutent. J'ai l'impression réellement qu'en ce moment, nous avons à nouveau le vent en poupe en termes d'offres de postes pour lesquelles on manque en pénurie de personnel. Donc, il y a moyen pour le jeune ou moins jeune qui n'est pas diplômé, qui n'a pas d'expérience, de s'insérer socio-professionnellement.
Vous évoquiez des recrutements massifs. Quels sont les secteurs qui recrutent actuellement ?
Alors tout à fait, on y revient également. Il est clair qu'à l'heure actuelle, au niveau de l'industrie, nous avons également de gros besoins. On a actuellement des postes d'agents de fabrication sur le secteur de Béthune, à hauteur d'à peu près une vingtaine de postes qui sont mis en place. On a actuellement sur le secteur de Merville, mais également d'Ouvrain, des postes d'agents de fabrication, d'agents logistiques, des plieurs. Nous avons actuellement des postes également en soudeur. Des postes d'aide à la personne, on parle également des auxiliaires de vie, on parle des animateurs pour les services jeunesse, aussi bien jeunes que adultes. On parle beaucoup actuellement de la fibre optique, nouveaux profils recrutés actuellement. On a actuellement des besoins en apprentissage, donc pour des jeunes de 16 ans à 25 ans, mais qui sont motivés par cette nouvelle technologie. On a des postes d'installateurs, de techniciens de réseau câblé de communication, des choses qui sont mises en place sur toute la région en lien avec nos collègues centres de formation.
Mais si je vous écoute, tout va bien dans le secteur de l'emploi finalement, il n'y a qu'à se pencher et ramasser ?
Alors ce serait aussi simple que ça, on n'aurait pas de raison d'être à notre niveau, au niveau de Passeport Format avec l'ensemble de mes collègues ici présents et au niveau des bureaux. Il y a du boulot, à nous à aller fouiller, le chercher et ne pas avoir peur d'oser franchir le cap des entreprises pour leur dire « moi j'ai besoin de vous ». Vous avez besoin de moi, on peut se marier ensemble un petit moment.
Qu'est-ce qui manque finalement pour que le chômage diminue alors que visiblement il y a de l'offre ?
En fait, je pense que pour ma part, ce serait plus une prise de conscience qu'il y a effectivement du travail, mais les personnes ont parfois des doutes sur leurs propres compétences, sur leur propre parcours. Et donc, il va falloir effectivement, comme le disait tout à l'heure Olivier, jalonner tout ça. Donc, nous, on dispose de pas mal d'outils et pas mal de collaborateurs au sein de Passeport Format. On a des psychologues du travail qui vont pouvoir faire des simulations d'entretien, essayer de revoir un petit peu la posture, le savoir-être. C'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, effectivement. Un savoir-être est très, très important dans l'entreprise. Certains employeurs vont peut-être même mettre de côté le savoir-faire parce qu'ils vont pouvoir former et vont mettre l'accent sur le savoir-être. Donc l'emploi existe, c'est certain. Aujourd'hui, on a des offres qui sont vraiment intéressantes sur le territoire. Les dispositifs d'accompagnement existent aussi. La possibilité de former au sein de l'entreprise est possible. Donc l'entreprise va jouer le jeu et va tenter effectivement de prendre des collaborateurs qui vont savoir filtrer un peu tout ça.
Si vous souhaitez prendre contact avec Passeport Format, un seul numéro de téléphone, le 03 21 64 47 50, 03 21 64 47 50. Ce reportage a été réalisé par Julien Maille de Radio Plus.
Cette émission est proposée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du Nord de la France, une coopération qui a reçu le soutien de la région Hauts-de-France.
Passeport Format sera d'ailleurs notre grand témoin dès 14h sur les débats qui aborderont la responsabilisation des jeunes, notre émission spéciale Plus de Fraternité que j'ai le plaisir de vous présenter en compagnie de Jean-Philippe. L'intégralité des reportages que vous venez d'entendre durant cette séquence sont réécoutables sans modération sur le site internet de la Fédération des radios associatives du Nord de la France, le www.franf.fr. Et nous on se retrouve bien sûr à partir de 14h pour la suite de votre émission spéciale Plus de Fraternité, jusqu'à 16h sur les ondes de Radio Plus. Merci de votre fidélité.
Les amis te prendront la tête.